French Connection, épisode 19.
Bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière épisode de l'année. Aujourd'hui avec moi, j'ai Nicolas. Salut Nick.
Hey, salut.
Vincent, salut Vince.
Ho ho ho, allô tout le monde.
Salut mon joyeux Noël. Et Richer.
Salut.
Donc, ce mois-ci, quand même, beaucoup de nouvelles, plusieurs sujets intéressants. Et on commence avec la grosse nouvelle de l'année, ou du mois. Le FCC qui a décidé de prendre une première attaque contre la neutralité du net. Richer, si tu veux nous parler de ça un peu.
Oui, en réalité, ils ont voté 3-2 cette semaine pour, défaire l'ancienne loi qui avait été établie par Obama en 2015 pour permettre à ce qu'il y ait une certaine neutralité au niveau du net. En fait, en quelques mots, tout ce que c'est la neutralité, pour ceux qui savent pas, c'est juste le fait que peu importe le contenu qui est desservi par un fournisseur Internet, ils n'ont pas le droit d'avoir de la ségrégation à ce niveau-là. Donc, de pas dire qu'il y a une priorité sur, par exemple, Netflix par rapport à un autre fournisseur de services, et que ça ouvre la porte aux fournisseurs de services de pouvoir faire des package deals, un peu comme les compagnies de câbles, finalement. Donc, pour que tu puisses avoir une connexion plus rapide pour certains services si tu payes, mais si tu payes pas, mais t'as un accès, mais plus lent, ce qui est un petit peu déloyal. D'autres, leur but, c'est de pouvoir être capable d'aider au niveau de la compétition pour changer les prix, puis faire une collaboration, puis tout ça. Mais en bout de ligne, tout ce que ça fait, c'est que ça donne de l'argent en plus dans les poches des fournisseurs de services comme aux États-Unis, parce que c'est là que ça avait été décidé, comme Verizon, AT&T, c'est des compagnies comme ça, que eux autres, ils en profitent de ça, du fait qu'ils peuvent charger plus cher à leurs utilisateurs. Donc, c'est assez, ouais. c'est bizarre,
c'est
ça.
Belle game de lobby.
Ben, on avait au Canada, Rogers faisait du throttling sur certains nombres de connexions dans lesquelles il était. Là, c'est connu, sauf que ça n'a jamais été affiché grand public. Là.
Oui, mais c'est ça, c'est connu. Ça fait un bout de temps que c'est parlé. Il y en a qui disent que justement ça change rien par rapport à l'internet qu'on avait avant, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais il y a Rogers, eux autres comme c'est là, ils ont dit comme quoi qu'ils veulent continuer à faire partie de la neutralité, parce qu'au niveau du Canada, même si c'est aux États-Unis que ça a été fait, ça a quand même un impact pour nous autres, parce que avec toutes les compagnies qu'on fait affaire aux États-Unis et combien de services qui sont offerts aux États-Unis. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ça peut impacter notre service, que nous autres, on essaie d'aller sur Netflix, ces choses-là. Ben, si on n'a pas d'entente ou qu'on n'a pas de service particulier pour dire, ben, donne-moi un petit peu plus de mégabits par seconde pour être capable d'avoir l'accès, c'est pénalisant. C'est pénalisant à ce niveau-là. Et donc, c'est un problème même pour nous autres. On a entendu cette semaine, justement, au niveau des nouvelles, il parlait que au niveau du Canada, on veut faire en sorte de pouvoir garder notre position et faire réaffirmer la position qu'on est contre le fait qu'il puisse débarquer qu'on est pour la neutralité finalement d'Internet, et qu'on va se battre un peu plus pour ça et conserver ça au niveau du Canada. Et dans les commentaires, il y avait que Rogers, eux autres, contribuent à ça, mais que Bell semblait déjà lui vouloir continuer, puis qu'il était bien d'accord à pouvoir faire des package deals. Fait que ça va peut-être de voir qu'est-ce que ça donne. Mais comme commentaire, il disait comme quoi que, mais de toute façon, si t'es pas content avec ton fournisseur, tu changes. Mais il y a le principe que, tu sais, on change de fournisseur, mais ça veut pas dire que l'autre fournisseur va avoir ça. Ça veut pas dire qu'il va avoir autant de compétition au niveau des prix pour d'autres petits fournisseurs parce qu'ils sont pas capables, étant donné qu'eux autres mêmes vont être taxés par rapport au transfert. Parce que, on se le cachera pas, là. On n'a pas grand, pour ceux à qui appartiennent des poteaux, comme on pourrait dire, il y en a pas tant que ça, des gros joueurs, là, comme au Canada, par exemple. Même chose pour les États-Unis. Il y a des places où est-ce qu'ils n'ont pas nécessairement plus qu'un ou deux fournisseurs de services. Ce qui fait qu'ils sont pénalisés.
C'est pas juste ça non plus, là. C'était le concept que la neutralité au Canada va rester pareille. Les États-Unis vont peut-être faire pareil. Ils vont peut-être mettre tous les mêmes prix partout, vont hausser les prix, surtout les packages. Et ça va être super neutre. Tu n'auras aucune compétition comme on a ici. Là.
Mais il y a le principe, pour monter les prix, ça ne veut pas dire que les personnes, il n'y a pas tout le monde qui va nécessairement avoir accès à Internet. Donc, c'est pénalisant aussi à ce niveau-là.
Ouais, moi, un petit commentaire là-dessus. Je m'écarte peut-être, mais je pense, par exemple, à nos compagnies d'assurance puis à nos banques qui font affaire justement avec des services spécialisés, soit d'actuariat, soit de data mining, etc., avec qui ils transigent aux États-Unis. Ça pourrait peut-être avoir un impact justement sur le forfait annuel également. Là, je le sais pas ici si c'est quelque chose qui a été pris en compte, mais il y a beaucoup de nos institutions qui font affaire justement avec des institutions spécialisées pour leurs activités financières.
Oui, ça pourrait possiblement avoir un impact à ce niveau-là. Donc, on voit que c'est pas juste une question de dire que je vais aller sur Google ou je vais aller sur Facebook un peu plus vite si je paye le package. Ça peut avoir un impact assez loin. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est important qu'on puisse garder ça pour garder ça libre et pas avoir de domination à ce niveau-là.
Mais faut quand même regarder les fournisseurs, surtout téléphone mobile au Québec, Canada. La neutralité du net, elle commence déjà à disparaître. Là. Je ne sais pas si vous avez vu les forfaits. C'est pas des forfaits négatifs, c'est des forfaits positifs que si tu achètes tel package, ben, toute la musique est gratuite et elle n'utilise pas tes données. Ça fait partie d'un fail, la neutralité du net, ça.
Ben dans l'ensemble, on est toujours pris dans un contexte où ces fournisseurs-là veulent faire plus d'argent puis nous attirer. Fait que, ben tu sais, je pense que c'est T-Mobile aux États-Unis qui fait une forme de filtration de cette nature-là. Fait que, essayent tout d'optimiser leur réseau d'une façon ou d'une autre pour réduire leur coût d'opération puis fourguer les choses aux consommateurs. Mais tu sais, quand on compare les États-Unis, surtout pour les choses cellulaires, je trouve que la qualité de nos cellulaires au Canada, de notre réseau cellulaire au Canada est franchement supérieure qu'aux États-Unis, parce qu'à chaque fois que je fais là-bas, mes lignes à drop, ça n'a aucun sens, mais vitesse, ça n'a pas rien rapport avec ce qu'on a ici. Fait que,
ouais, mais ça, Nick, le Spectrum aux États-Unis, je sais pas si tu te souviens, au DEFCON, il y a quelques années, le Spectrum était quasiment saturé aux États-Unis, là, au niveau du Spectrum cellulaire. Fait que.
Ouais, mais, tu sais, ils payent. On peut vanter qu'ils payent moins cher que nous, mais leur qualité est aussi plus basse. Fait que, tu sais, c'est comme...
Cause à effet, c'est normal, c'est correct.
Oui, mais c'est correct. C'est correct qu'on paye plus cher et qu'on a une plus grande qualité aussi. Là. Puis il faut faire une parenthèse pour Netflix, parce que ce qui est pas dit, puis parce que tout le monde chigne, mais ce qu'ils savent pas, c'est que la plupart des gros fournisseurs ont des serveurs de caching de Netflix locaux. Fait qu'ils, dans aucun moment, ils sortent de leur propre réseau. Comme Bell, disons, Bell va avoir un gros serveur de caching Netflix. Fait que tous les films Netflix les plus récents sont locaux. Fait que ça consomme jamais en dehors de son propre réseau. Fait que la notion de neutralité aussi est parlée par des politiciens puis par des gens qui, je pense, n'ont pas de connaissances techniques très profondes. Mais dans les faits, ça marche pas exactement comme ça. Les fournisseurs se sont arrangés différemment. Puis je pense que c'est finalement juste une game pour que tout le monde fasse plus d'argent.
Bon, de toute façon, on va le vivre avec la nouvelle loi que le gouvernement canadien met en place là sur le fait que l'internet devient un service essentiel. Ça veut dire que Bell, TELUS, Rogers et les autres, ils vont justement mettre beaucoup d'argent pour rehausser l'infrastructure. Ça va avoir un impact sur notre facture. Pour moi, on va passer par cette étape-là avant de nous pousser dans la gorge peut-être un modèle de neutralité. En fait, un modèle qui va décliner vers de la neutralité. Là, je m'avance pas, mais c'est une de mes hypothèses.
Moi, il y a une chose que j'aime pas là-dedans, c'est le fait. Bon, regarde, c'est le côté attachant un peu du avec les mains liées, là, qu'on pourrait dire, qui fait que si on est capable de pouvoir avoir un forfait, OK, on a un forfait donné ou un forfait médias sociaux, admettons, là. Puis moi, c'est parce que si ça m'intéresse pas ou si je l'utilise pas autant, je suis obligé de choisir des forfaits différents. Puis ça revient au même que quand on a 147 postes de télé, on est obligé de prendre des bundles ensemble pour avoir un poste, quand en réalité, ça nous en donne 25. Que à quelque part, ça enlève la liberté de pouvoir dire je veux juste avoir accès à ça, peu importe la vitesse. T'sais, c'est comme moi, c'est ce qui m'interpelle le plus là-dedans, que je veux pas avoir à choisir ou avoir à payer plus nécessairement juste pour recevoir la même chose, ou bien s'il y a quelque chose qui m'intéresse pas. C'est comme j'aime pas ce côté restreignant.
Ah ouais, mais eux autres, ils font le budget. Puis quand ils font le budget annuel, ils veulent de la rentabilité. Puis présentement, si on permettait à monsieur, madame, tout le monde de faire ses choix, ce qui est le meilleur des mondes, si vous voulez mon avis, ça va venir jouer justement au niveau de leur rentabilité puis de leur budget. Puis ils peuvent plus le prévoir à ce moment-là. Puis les compagnies adorent le contrôle, adorent ce pouvoir-là de pouvoir prévoir. Puis il s'embauche un bastard from hell, moi je l'appelle de même, qui analyse toutes les données puis qui arrive avec le modèle parfait justement pour maintenir cette rentabilité-là. Puis nous autres, on se retrouve, comme tu l'as bien dit, on a les mains liées. On n'a pas le choix de prendre des choses qu'on veut. On paye des choses qu'on veut pas. Dans le domaine du numérique, là, dans le télécom et tout, là, c'est chiant.
Non, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça, dans le fond, il y a des fois, il peut y avoir des bons côtés pour certaines choses. Et c'est même... Anyway, la manière que je le vois, je vois pas ça d'un bon œil personnellement.
Yes, continuons avec une nouvelle encore aux États-Unis, mais du côté militaire, Nick, si tu veux nous parler de l'implémentation de la sécurité au niveau US.
Ouais, ben il y a 2 ans de ça, l'armée américaine avait mis des critères minimaux de sécurité pour ses fournisseurs. Et cela arrive à expiration, c'est-à-dire qu'au 31 décembre cette année, les fournisseurs en question devront atteindre un niveau de sécurité minimale et moins documenter leur sécurité. Le niveau de sécurité exigé n'est pas très élevé tant qu'à moi, là, c'est vraiment strictement la base, mais au moins ça assure qu'un certain nombre de contributeurs, en tout cas de contractants de l'armée américaine, puissent avoir une sécurité qui est supérieur. C'est un peu comme PCI où c'est imparfait, mais minimalement, ça hausse le niveau global de la sécurité de tout le monde. Donc, ça garantit qu'il y a des niveaux. Ils doivent respecter le NIST 800-171 qui est, dans le fond, l'ensemble des règles qui sont associées à ça. Puis la barrière n'est pas très haute. Là. Fait que, c'est comme PCI, c'est pas très extraordinaire, mais au moins, l'armée américaine utilise son pouvoir d'achat qui est quand même assez immense dans ce cas de l'armée. Puis le gouvernement américain en général, mais ça aussi, mais pour forcer les fournisseurs, forcer les gens à rehausser leur niveau de sécurité, donc pour le bénéfice de tout le monde, ce qui est en soi une très bonne chose. Ce serait agréable de voir que le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada procède à ce même genre de obliger une certaine forme d'hygiène minimale de sécurité pour leurs fournisseurs.
Yes, puis en même temps, faut se rappeler qu'il y a eu quand même plusieurs rumeurs et ou nouvelles que des contracteurs de l'armée américaine qui ont volé des données ou qui les ont oubliées sur des buckets S3 ou des serveurs même publics.
Non, on n'a jamais entendu parler de ça.
Non, aucune idée. Mais qui ont oublié, dans le fond, tous les outils d'attaque de l'armée par hasard sur des serveurs publics. Donc, en espérant que ce NIST-là va aller récupérer un peu le niveau de sécurité pour ces détails-là. Yes. Si on continue un peu côté gouvernement et mise en place de stratégie de sécurité, on a notre gouvernement du Québec qui a mis cette semaine la stratégie numérique du Québec pour, après, disons-le, peut-être 15 ans en retard, ont décidé de dire que l'Internet était quelque chose d'utile et qu'il fallait mettre en place une stratégie pour que les entreprises y participent. Que la population ait accès à Internet, etc., etc. Et évidemment, on a regardé un peu le tout au niveau de la sécurité en tant que telle, et ça se retrouve, oui, dans la description du texte et tout, même si on fait juste une recherche du mot « sécurité », il apparaît 23 fois, félicitations, mais il est en secondaire, il est pas en optionnel, mais il est comme inclus un peu partout. Et non prioritaire, comme on peut le voir dans plusieurs services sur le web, que ce soit Amazon, AWS, les courriels, whatever, où ce que la description officielle d'un service web, de quelque chose de très orienté Internet, la sécurité vient en premier. Et dans les stratégies, ils ont énuméré 6 principes. La stratégie fait partie d'une phrase avec d'autres principes. Donc, la sécurité n'est même pas un point seul. C'est l'ouverture, la sécurité et la pérennité des données. Donc, à l'intérieur de l'open source et de la pérennité des données, ben ils vont dire qu'il faudrait s'assurer que ce soit sécuritaire. Mais ça finit là. Je ne vais pas trop en parler plus. On va analyser le tout. On va regarder la documentation, la lire un peu plus, puis on va faire une édition spéciale du podcast qui va analyser la stratégie au niveau de la sécurité et autres trucs un petit peu plus techniques. Donc, on s'en reparle, mais un peu déçu de ça. C'est pas surprenant, mais décevant.
Alors, je suis d'accord avec toi, Patrick. Pour avoir assisté à quelques conférences, notamment du secrétariat du Conseil du Trésor du Québec, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, l'élément qu'ils veulent mettre en place au niveau de la réponse aux incidents de sécurité qui passe justement par le CSPQ, j'ai assisté à une conférence, je pense qu'il y avait des sous-ministres d'à peu près tous les ministères qui étaient présents. J'étais chez mon ancien employeur à ce moment-là, on était sponsor, bien entendu, les boîtes comptables, c'est le rentre au gouvernement, donc ils injectent de l'argent dans ces événements-là. Il y a une question qui revient tout le temps, c'est le fameux « vous nous émettez des directives ». On aimerait savoir quels sont les requis, c'est quoi le requis minimal, puis pour le savoir, vous voulez qu'on fasse quoi, qu'on produise quoi, on a besoin du comment, et puis les réponses du gouvernement sont toujours évasives, c'est toujours bien écouté. On connaît pas vos moyens, on connaît pas vos aptitudes, alors présentez-nous quelque chose. Alors, ils retournent toujours la question aux différents ministères. Fait que les ministères font, puis je les comprends, ils font, on n'appliquera rien si on nous indique pas le comment. Et il semble pas non plus y avoir l'élément de pénalité si on ils mettent pas en place justement ces infrastructures-là, puis ces nouveaux processus, ces procédés-là, ces processus-là. En fait, ça, c'est mon opinion. J'ai assisté à deux, et puis ça revenait au même, c'est le même individu. Je me souviens plus de quel ministère qui a posé la question. Puis c'était le fameux comment. Puis ça se mettait à chuchoter à toutes les tables. Le gars avait raison. Secrétariat restait muet sur le dossier, faisait sa petite réponse évasive politique, puis ça s'arrêtait là.
Ce qui est dommage, même avec la stratégie, c'est que c'est tellement de haut niveau que ça va revenir au même que le point que tu as expliqué. Que c'est tellement oui, c'est une stratégie, donc c'est haut niveau, mais on le sait que ça risque d'arrêter là, comme on a vu souvent, puis comme l'exemple que tu viens de donner. Donc, hâte de voir ce que ça va donner.
Bon, on va reparler dans 15 ans probablement encore. Là.
C'est ça l'affaire, c'est que considérant tous les autres projets qu'on a déjà vus plus ou moins réussir, ben on a comme une petite amertume par rapport à celle-là, puis en plus, il est tellement retard. La plupart des choses qu'on a rapidement lues dedans, certaines ne sont même plus à jour parce que c'est déjà dépassé de plusieurs années. Donc, on en reparlera et on va en entendre parler effectivement dans les prochaines années. Ça risque de faire parler beaucoup. On continue dans les nouvelles mises à jour au niveau de Apple, Nick.
Ouais, vaut mieux tard que jamais. Apple a fini par mettre à jour ses différents routeurs sans fil pour la vulnérabilité crack et en même temps diffuser un certain nombre de correctifs sur ces systèmes. Disons qu'ils ont eu mauvaise presse dernièrement pour une compagnie qui s'est longtemps vantée d'être en avance en sécurité puis de pas être aussi vulnérable que son vis-à-vis. Ça commence à être un peu plus honteux par rapport à ce qu'on est habitué d'eux autres en termes de vitesse de réponse et ce qui va sur ces choses-là. Mais minimalement, ils l'ont fait, finalement.
Puis Crack, elle date quand même de plusieurs années, non?
Crack, c'est assez récent. Là. C'est ce qui s'est passé cet automne sur la vulnérabilité Wi-Fi.
Oh, OK.
Il avait corrigé la vulnérabilité sur le iOS et le macOS, c'est-à-dire que tout ce qui était client était corrigé. Là, il restait juste à corriger la partie infrastructure qui ont délesté aussi, c'est peut-être pour ça, là, qui n'ont pas remis à jour rapidement. Les objectifs corporatifs ne sont pas alignés. C'est-à-dire qu'ils ont des équipements qui ne veulent plus vraiment supporter, qui ont arrêté de vendre, puis ils ont tardé un peu à les mettre à jour. Là, ce qui fait que tous ceux qui sont propriétaires de AirPort vont sérieusement se questionner sur le fait de se débarrasser de ces équipements-là pour d'autres équipements plus modernes.
Ouais, ça va te donner du pouvoir à plusieurs autres compagnies en Wi-Fi et autres infrastructures. C'est clair. Puis il y a tellement de mises à jour et de vulnérabilités qui sont découvertes dans tous les domaines présentement. Ça pleut à toutes les semaines. Donc, en espérant que ce soit pas leur nouvelle manière de faire, effectivement. Au niveau plus offensif, Richer, un petit update par rapport au botnet Mirai.
Oui, donc dernièrement, il y a 3 personnes qui ont été qui étaient accusées d'avoir fait des dénis de service à multiples occasions en utilisant le Mirail. Comme c'est là, eux autres, ces 3 personnes-là ont plaidé coupables. Ils sont dans la vingtaine, la jeune vingtaine. Puis ils ont plaidé coupables à avoir essayé d'utiliser d'avoir utilisé ça contre des sites web. Ils faisaient beaucoup de, on pourrait dire, d'advertisement dans le dark web avec sur des forums pour montrer comme quoi utiliser ces services-là, blablabla. Donc, pour pouvoir être capable de faire des DOS, des DDoS, pardon. Donc, dans ces cas-là, ça utilisait au-dessus de 300 000 IoT. Donc, c'est pas négligeable pour pouvoir être capable. Tant qu'ils ont de la bande passante, on s'entend, ils vont pouvoir être capables d'attaquer n'importe quoi. Donc, présentement, c'est ça. Ils ont plaidé coupable à ça. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup de détails pour le reste, mais donc, il y a des gens qui sont derrière les attaques et ils sont persécutés.
Ce qui est intéressant de ce cas-là, par exemple, si vous avez suivi, je pense que c'était Krebs qui avait trouvé, qui avait doxé, en fait, les personnes derrière. Et c'est effectivement ceux qui ont été accusés, qui avaient été releasés sur son blog là, il y a quelques mois.
Ça, je l'avais pas vu ça.
Ouais. C'est assez surprenant. Là. Ça veut dire que le gars, ses ressources même pour tout ce qui est black market et le darknet et tout ce qui est offensif, illégal, il y a énormément de bons contacts pour retrouver ces personnes-là bien avant la police et en faire la publicité sur le web, là. Quand même intéressant, mais donc ça revient un peu à un très mauvais obsèque, encore une fois, par certains criminels.
Oui, exactement. Donc, c'est à suivre. On va voir on va rajouter des updates par rapport à ça pour ce qui suit pour ce petit botnet, petit gros botnet.
Yes. Dans les dernières nouvelles de mon côté, puis c'est 2 nouvelles un petit peu semblables et très bizarre d'avoir ces entreprises-là qui ont fait ça. On apprend que Microsoft, avec Windows 10, a implémenté une feature qui installe de manière silencieuse des applications tierces de third party, carrément, s'ils sont considérés populaires dans leur App Store. C'est assez terrible au niveau implantation de sécurité. Si tu réussis à faire une application avec des backdoors qui devient super populaire, elle pourrait se faire peut-être installer dans Windows 10. Ça a été découvert par le Taviso, qui est le gars qui fait du reverse engineering chez Google. Il s'est aperçu qu'il y avait un password manager, Keeper, qui s'est installé automatiquement dans Windows. Et lui, ayant déjà fait du reverse engineering sur plusieurs password managers, a décidé de faire la même chose sur Keeper et a trouvé des vulnérabilités critiques et ça a été relevé à Microsoft et tout. Je sais pas au niveau des patchs, mais ça devrait sortir prochainement. Je crois qu'ils vont changer la manière de faire, mais c'est quand même assez terrible. Même on a analysé un petit peu le tout et dans la clé de registre de Windows, la clé qui fait la mise à jour mais l'installation de ces logiciels-là s'appelle Silent Installation ou quelque chose comme ça. Il y a le mot silent dedans. C'est carrément une feature, puis c'était volontaire.
Ouais, mais c'est pas la première fois que Microsoft joue dans ces tales-là. Peut-être pas aussi de façon aussi publique, mais je pense depuis Windows 2003, ou peut-être même avant, on avait vu des traces de mise à jour transparente ou invisible à l'utilisateur. Fait que c'est pas... ce petit côté sneaky-là est pas nouveau. Ça doit faire au moins une dizaine d'années que ça fait son chemin. C'est une façon nouvelle de le faire maintenant que les App Store sont rendus la façon de faire, là, que dans le fond, Apple a popularisé là, cette approche-là au niveau des différents OS. Fait que c'est un peu c'est beaucoup malaisant ces affaires-là de se faire encore une autre affaire qu'on se fait mettre dans la gorge puis qu'on n'a pas la capacité de rien déterminer. Là, on est dans un monde où on est finalement que traité comme des enfants.
Ouais, c'est dommage. Puis en même temps, je comprends pas pourquoi encore aujourd'hui ils réussissent à accepter ce genre de comportement-là. La même chose avec leur à la release de Windows 10 qui forçait les analytics et tout les pas tant de l'espionnage, mais beaucoup trop de data qui est envoyé à l'extérieur. Ce qui est un peu l'inverse d'installer des choses, mais ça reste que c'est beaucoup de choses que l'utilisateur ne voit pas. mais c'est effectivement rien de nouveau, puis ça continue. Et la dernière nouvelle qui est très, très semblable, Firefox a décidé d'installer pour une pub de Monsieur Robot, l'émission de la télésérie de hacking, a décidé de forcer l'installation d'un plugin Firefox en tant que publicité pour Monsieur Robot. Extrêmement mauvaise campagne de publicité. Je ne sais pas quoi que l'équipe de marketing a pensé. Là, ils se font ramasser de tout bord du côté sur le web. Le plugin s'appelle Looking Glass. Ça a l'air louche. Ça a l'air effectivement d'un malware et autres. Et aucune idée pourquoi ils ont décidé de foncer dans cette promotion malveillante.
Quand ils commencent à avoir de l'argent, les gens perdent un peu leur sens critique, disons. Ce qui fait que ça génère ce genre de choses-là, mais c'est excessivement malaisant de dire que tu permets à un tiers d'installer des choses sur ton ordinateur. Là. C'est vraiment là malaise.
Puis, ouais, mais ils viennent de se mettre le pied dans la bouche un petit peu, là, avec toutes
c'est
les...
C'est terrible, là, parce
avec
que
toutes les...
je pense que c'était... Excuse, vas-y.
Ouais, non, je voulais juste dire que ça fait juste signifier justement que n'importe quel clown qui a un peu d'argent, ben en fait, le fait de se laisser influencer, puis on va le dire, dicter l'installation, puis la mise en place d'un élément probablement qui est non désiré volontairement par les utilisateurs, ça laisse place aux autres qui ont justement beaucoup d'argent, qui pourraient débarquer là avec des mallettes pleines d'argent en disant hey, j'ai un produit moi aussi, vous l'avez fait pour lui.
Fake news, ouais. Fake news.
Ouais, c'est terrible dans le sens que je voulais dire, c'est que je pense que c'était Google via Gmail ou un autre qui avait essayé d'installer la même chose, un genre de, il avait forcé un plugin que personne voulait, une affaire de microphone, je pense dans Gmail, je me souviens plus du détail exact, mais ça avait été rejeté, ça avait fait aussi ramasser publiquement.
Ouais, mais de banal, le contrat américain, sont basés sur le fait que il y a beaucoup d'un discours américain très fort sur la liberté, sur le fait que tu as le droit du port d'armes, de pouvoir tirer quelqu'un qui rentre sur ton terrain. C'est genre la protection de ta propriété était aussi extrême que ça. Puis ensuite, ils te permettent des compagnies à installer du stuff chez vous. C'est la même genre de notion, là, c'est du trespassing, de même acabit. Là, c'est insane que ça vienne d'un pays. Ce degré de contradiction, là, c'est fascinant.
Ouais, d'un bord, t'as de l'argent qui te permet de tirer du monde, puis de l'autre bord, ben, t'as l'argent qui permet de faire du trespassing qui revient au même. Ah, un peu dommage. Mais ça sera sûrement pas la dernière pub ou plugin forcé comme ça. Ça risque d'arriver dans une couple d'années encore, puis on va en rire, malheureusement.
Mais on va tourner avec utiliser Lynx.
Ouais, il est même plus installé par défaut, en plus. C'est très triste. Ouais.
Mais, c'est vrai.
Dis-moi donc, Pat, petite question comme ça. Ce plugin-là, justement, pour faire la promotion d'un épisode de Mr. Robot, est-ce qu'il était dommageable? Est-ce qu'il rendait vulnérable le fureteur? Ou c'était juste c'était un irritant?
Non, c'était plus un irritant. Dans le fond, ça imitait un malware de l'émission. C'était un peu la même chose qu'il y avait dans l'émission. Puis là, oh, regarde, tu l'as toi aussi sur ton poste. Ce qui fait que c'est encore pire parce que tu penses que c'est vraiment comme un malware ou quelque chose du genre.
OK, fait que là, ça permet à une couple de clowns de ressortir leur chapeau en foil et de se le mettre sur la tête, là.
Ouais, ouais, ça n'a pas aidé grand-chose tant que moi. Il n'y avait rien d'intéressant là-dedans. Là.
Oh, pour moi, il n'est pas invité au party des fêtes cette année, celui qui a mis ça en place. Mais bon.
Ouais, mais ça a été approuvé par l'organisation, on s'entend. Hein? Fait que. Mais oui, quelqu'un risque de se faire ramasser, mais on va en entendre parler bientôt, sûrement. Donc, ça fait le tour des nouvelles, messieurs. Dernier sujet, commentaire pour la fin de l'année. Des joyeux Noël.
Ben, moi, c'est Vincent qui parle. Joyeux Noël, ben, vous autres les boys. Beau temps des fêtes. Du succès dans vos études. À ceux qui nous écoutent, ben écoutez, moi, je vous remercie de nous écouter. On est là pour vous autres. Et puis... Autre élément aussi, je pense que l'année 2017, on va dire comme au fil panel de ce jeudi, on dit tout le temps, on dit à chaque année que c'est l'année justement des problèmes de cyberattaque. L'année 2017 a été passablement mouvementée. J'ai pas hâte, mais j'ai hâte à 2018. J'ai l'impression que les sujets manqueront pas. Fait que moi, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, une bonne année, dormez sur vos deux oreilles. Mr. Robot, c'est très bon en passant. Pas nécessairement via Firefox, là, mais allez chercher sur Netflix, là, c'est bien plus simple.
Yes, merci à toi, merci à tout le monde, c'est super. N'hésitez pas surtout à nous écrire si vous avez des suggestions de sujets, que ce soit des segments techniques ou juste des discussions que vous voulez entendre notre opinion, ça nous fait plaisir. On a le courriel sur le site web ou le Twitter. Et yes, bonne année à tous. Nick, Chez.
Bonne année, bonne année.
Bonne année, Noël.
Yes, Noël, ouais, Noël aussi.
Noël, bonne année, sécurité peut-être, ou avec du IoT tout vulnérable qu'on va avoir servir dans un botnet pour 2018, nous donner de la job, quoi.
Un petit mirail. Un mirail pour Noël.
All right. Over and out, Rich.
Over and out.
Awesome. Bye, tout le monde.
10-4 breakers.